Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans Okapi Service, le magazine de la vie au quotidien. C'est un plaisir de vous retrouver encore aujourd'hui pour vous servir. Examen d'État 2023, qu'est-ce qui explique le changement des résultats? Après la clôture, un mois après la clôture de la publication, bon, on sort le palmarès, les écoles qui avaient fait néant et subitement, les choses ont changé, les élèves de cette école ont réussi. Alors, bon nombre de personnes se demandent qu'est-ce qui s'est passé, c'est là, et l'affaire est virale dans les réseaux sociaux, bon nombre de gens, voilà, il y a une polémique qui circule sur les réseaux sociaux. Alors bon nombre de personnes se demandent qu'est-ce qui s'est passé, c'est scandaleux, certains crient au scandale, etc. Eh bien, nous allons en savoir plus dans cette émission avec nos invités. Nous avons dans ce studio Monsieur Jacques Tati Mwakupemba, coordinateur national de la Fédération nationale des enseignants et éducateurs sociaux du Congo, Monsieur Odia Musungai, inspecteur général au ministère de l'enseignement primaire et secondaire à l'EPST, et notre invité, bon, jusque-là il n'est pas encore joignable, nous allons toujours continuer à l'appeler. Monsieur Jacques, bonjour.
Bonjour.
Bienvenue dans cette émission.
Merci.
Dans la seconde partie de ce programme, nous allons parler de l'importance de l'approche une santé, une seule santé, One Health. Comme on l'a dit, eh bien, on aura comme invité pour le professeur Nadège Ngombe, qui est coordonnatrice de la commission de coordination une santé. Bien. Pour participer à cette émission, le standard est ouvert. Composez les 081-890-63-94. Écrivez-nous à service@radiokapi.net. Jean-Noël Mokondo à la mise en onde. Tati Mapuko assure la réalisation et la coordination de cette émission que présente Jody Daniel Kachama. Bienvenue à tous.
Le 42-502, c'est Radio Okapi dans votre téléphone. Par un simple appel au 42-502. 42-502. Une fois sur le 42-502, vous avez le choix entre différents programmes. Différents programmes. En tapant le 311 pour le journal, la revue de presse au 312, le flash info au 313, le 321 pour le sport, la chronique santé au 322 et banane doublée au 323. Le 42-502, c'est Radio Okapi dans votre téléphone, accessible à partir de 10 appels gratuits par mois au 42-502. 42-502. Uniquement pour les abonnés Vodacom.
Bien. La confusion demeure auprès de la population après la publication du palmarès de l'examen d'État 2022-2023. Environ un mois après la publication définitive des résultats, plusieurs écoles ayant fait néant ont maintenant réussi. Certains élèves qui avaient échoué selon les résultats publiés par les compagnies des téléphonies cellulaires ont enfin retrouvé leur nom sur le palmarès. Cette situation a suscité plusieurs réactions de plus d'un Congolais qui crie au scandale. L'affaire est virale sur les réseaux sociaux au point de discréditer le système éducatif congolais. Pour l'EPST, il n'y a pas eu recours, comme certains le disent. Les réussites et les échecs demeurent tels que publiés, sauf mauvaise consultation des élèves qui maintenant sont clarifiés par le palmarès. Peut-être l'élève avait mal regardé sur les réseaux qui ont publié qu'il avait échoué, mais après, quand le palmarès sort, le palmarès confirme que l'élève a réussi. Voilà comment le ministère de l'EPST explique cette situation. Monsieur Jacques Tati Mwakupemba, quelle analyse vous faites de tout cela?
Merci pour votre question. Je crois que cette affaire est très virale, comme vous l'avez dit. Nous, on se pose la question, finalement, s'il faut continuer à faire sérieux, à prendre au sérieux ce qui s'est fait, cette publication qui aujourd'hui suscite beaucoup de remous dans le chef des parents, de responsables, des syndicats, des enseignants. On ne sait plus à quel sens se vouer. Donc, on se dit que lorsque les politiciens véreux, comme je voulais dire, entre dans une histoire, surtout au Congo, et nous connaissons ce qui s'est fait après. Et il y a lieu quand même de dire que les choses ne sont pas prises au sérieux dans la publication de ça. On se pose des questions. Et on publie les résultats. Et un mois après, lorsqu'on publie les tableaux synoptiques des résultats avec 78% dans l'ensemble de réussite de la République, mais on constate qu'il y a des élèves qui commencent à festoyer. Et on se dit, c'est qu'au départ, il y a eu un problème. Et les informations à notre possession nous renseignent que déjà au niveau des centres de correction des examens d'État, il y a eu beaucoup de problèmes qui se sont passés. Il y a eu des inspecteurs qui étaient, des inspecteurs et correcteurs qui étaient en grève, qui avaient stoppé la correction des examens d'État. Et puis bon, on ne sait pas qui sont venus après pour continuer la correction de résultats. Et puis tout ça, ça sème toute cette confusion. Et nous, nous posons la question au niveau du syndicat, est-ce que il y a encore du sérieux au centre des examens d'État. Voilà.
C'est ça la grande question que plusieurs personnes se posent.
Tout à fait, parce que...
Est-ce qu'il y a eu réellement recours? Parce que le ministère dit il n'y a pas eu recours. Les résultats sont tels que publiés, mais il y a eu une mauvaise lecture ou consultation des candidats.
Le ministère doit aller au fond vraiment de problèmes. Nous avons vu, par exemple, dans les réseaux sociaux, je me permets de citer les cas, par exemple, des lycées Boyokani, où une religieuse qui est sort-prophète là-bas a fait de recours. Et puis...
Tout est parti de là.
Certainement. Mmh. Et elle a été sermonnée par les autorités, tout le monde. Soi-disant, on lui disait que... elle avait mal consulté, ou ses élèves avaient mal consulté sur base des fichiers de 2022, et que voilà, et tout ça. Mais bon, après, la situation s'est empirée. On a vu même, sur les réseaux sociaux même, un ministre, que je ne pourrais pas dire ici, qui a fait aussi recours. Et c'est connu, un ministre pour sa province de Grand Équateur, c'est connu qu'il a fait aussi un recours. Donc, les recours étaient là, parce que, bon, on s'est dit... En fait, la loi l'autorise, hein. La loi autorise qu'un élève peut faire recours, peut contester le résultat et demander le recours si on peut aller voir et dans ce qu'il a fait comme travail, s'il a raison ou pas. La loi l'autorise. Mais bon, l'affaire a été devenue politique et n'oubliez pas qu'on est dans une période que je ne veux pas dire ici.
Électorale.
Électorale. Et puis, on se dit, tous ces gens cherchent l'électorat, il faut satisfaire tout le monde. Mais après, c'est pour quel résultat, c'est pour quelle qualité des diplômes qu'on va donner à ces enfants, etc. Voilà comment la situation est difficile.
Mmh. Mais est-ce que la grande question que l'on se pose, est-ce que réellement il y a eu recours? Est-ce que c'est vrai tout ce qui se raconte?
Bon, je crois que... Le ministère a répondu. Nous avons lu dans les réseaux sociaux la cellule de communication du ministre ou du ministère de l'enseignement primaire secondaire en train de répondre sur soi-disant tout ça. Mais ce qui est vrai, c'est que il y a eu un environnement, même une ambiance qui n'était pas bonne au niveau des centres des examens d'État. Il y a eu des grèves parce qu'on n'avait pas payé. Les correcteurs et les inspecteurs qui sont censés être dans cette boîte. Et ça ne pouvait que créer tout ça. Mais on se demande, est-ce qu'on avait payé ces inspecteurs? Si on n'avait pas payé ces inspecteurs, qui ont poursuivi la correction? Qui ont été recrutés? Est-ce qu'ils avaient vraiment la technicité? Ils avaient vraiment la qualité de faire ces corrections? Et puis... Quand on publie, on répond à quelqu'un que vous consultez sur base des mauvais algorithmes de l'année 2022. Comment est-ce qu'on peut publier le résultat sur, pourquoi on pouvait pas effacer tous ces algorithmes de 2022 pour rester avec 2023? Tous ces éléments nous poussent à croire que il y a eu des couacs.
Il y a eu tripatouillage, comme on l'a dit.
Ah oui, il y a eu des couacs.
Bien, on va accueillir Monsieur Jean Bosco Puna. Bonjour.
Oui, bonjour.
Jean Bosco Puna, vous êtes le secrétaire exécutif du SINECAT, Syndicat National des Enseignants des Écoles Catholiques. Bien, nous parlons aujourd'hui de la publication des résultats de l'examen d'État, édition 2022-2023. D'après certains, bon, il y a des élèves qui avaient échoué, des écoles qui avaient fait néant, mais lorsque le palmarès est sorti, les résultats ont changé. Alors, j'invite les auditeurs qui veulent participer à cette émission de nous appeler au 099 706 9941. 099 706 9941. Voilà, je disais qu'après la publication du palmarès, les résultats ont changé. Qu'est-ce que vous dites par rapport à tout cela, Jean Bosco?
Bon, il faut simplement dire que nous déplorons ce qui est arrivé, parce que n'oubliez pas que l'examen d'État, c'est l'évaluation la plus prestigieuse de notre système d'enseignement. Et lorsque l'examen d'État est dévoyé à ce point-là, il faut dire que c'est l'enseignement qui prend un sérieux coup. Mais c'était prévisible ce qui est arrivé parce que au niveau de la synergie des syndicats des enseignants, nous avons tiré la sonnette d'alarme et on avait même prévenu les cabinets du ministre qu'on devrait faire attention et voilà ce qui est arrivé. C'est-à-dire que les inspecteurs, les personnes, les intervenants qui sont qualifiés à pouvoir jouer ces rôles, à pouvoir corriger, n'ont pas été mis en contribution, n'ont pas été mis à contribution, je veux dire. C'est ce qui crée la débâcle que nous vivons aujourd'hui. Quelles que soient les explications qu'on puisse donner, mais bien, cette édition a été la plus mal organisée et je crois que le ministre ne peut pas être content de ce travail, moins encore l'inspection générale de l'enseignement. Il faut dire qu'on a récupéré toutes les attributions de l'inspection générale de l'enseignement et puis, bon, la débâcle est là. Voilà, il faut absolument corriger pour 2024. Parce que déjà, les signaux ne sont pas bons. Lorsqu'on exige à tous les élèves à pouvoir payer 9000 francs de numérisation, qu'on ne payera pas à l'inspection, mais qu'on payera à une agence privée, je crois que le ministre doit quand même revoir les tirs. Ce n'est pas bon pour le système éducatif.
Bon, quand on dit que les résultats n'ont pas changé, c'était plutôt... les gens ont mal regardé les résultats publiés par les entreprises de téléphonie cellulaire. Mais le palmarès vient confirmer les mêmes résultats. C'était tout simplement les gens ont mal regardé.
Non, mais les gens ont mal regardé toutes les années. Les gens ont regardé mal ou comment? Je crois que ce faux fouillant-là est même ridicule. On ne peut pas aujourd'hui imputer la responsabilité aux sociétés de télécommunications. Ces sociétés ont toujours rendu de beaux services à notre système d'enseignement parce que depuis qu'on a informatisé, eh bien, on travaille avec. Donc, lorsque vous trouvez, par exemple, des écoles entières qui ont de nouveaux résultats, je crois que le prétexte là ne tient pas, ne marche pas. On a caricaturé le comportement de la sœur préfet de Boyokani. Elle était la première à pouvoir faire les premiers recours. Mais je crois qu'aujourd'hui, les événements lui donnent raison et nous donnent raison, nous tous. Les résultats qui ont été publiés en seconde, ce sont véritablement des résultats qui repêchent les élèves. C'est-à-dire qu'il y a eu un véritable problème technique au niveau du cabinet, parce que le cabinet a récupéré les attributions de l'inspection, croyant mieux faire, et pourtant, les techniciens étaient bel et bien là. Et comme dans la démarche du ministre, bon... Le dialogue, ce n'est pas véritablement son train. Eh bien, on a imposé les choses. Les inspecteurs se sont mis à regarder. C'est vrai qu'ils étaient en grève, mais au-delà de ça, s'il y a eu collaboration, parce que le domaine de l'éducation, c'est un domaine de collaboration. Et l'inspection de l'enseignement n'est pas une inspection judiciaire où on vient donner les dictats. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, nous avons des résultats qui ne sont plus fiables, parce que ce soit les parents, que ce soit les élèves. Et vous savez que l'examen d'État, c'est au-delà des frontières. Le diplôme qui doit être défendu au-delà des frontières, ça jette vraiment un grain de sable dans la machine. Et je crois que c'est pas normal. C'est pas normal pour les cabinets politiques. Nous avons toujours dit, il est important de pouvoir dépolitiser le secteur. Mais l'homme politique, quand il arrive, eh bien, il fait des équations politiques. Et voilà, ça c'est une véritable débâcle. Depuis que l'examen d'État a commencé, c'est la première fois que nous vivons cela. Alors, je rappelle ici que l'évaluation fait partie du processus éducatif. Vous avez la programmation, vous avez la facilitation et vous avez l'évaluation. Toutes ces étapes sont très, très importantes. Et lorsque au finish, l'évaluation se comporte de cette manière-là, ça veut dire que tout le travail du maître, tout le travail de l'enseignant a été bâclé. Nous avons l'évaluation formative lorsque nous travaillons, lorsque nous sommes en classe, mais l'évaluation certificative permet à pouvoir attester les connaissances et permet à donner à celui qui termine un parchemin, un diplôme qui lui permet d'aller évoluer ailleurs. Maintenant là, c'est un véritable blocage. Le ministre vraiment termine son mandat sous un temps sombre. C'est pas bon.
Voilà, donc vous affirmez que les inspecteurs étaient en grève et que le cabinet du ministre a récupéré la situation, la publication des résultats. Bon, voilà, c'est ce qui nous amène à cette situation. Monsieur Jacques Tati, qu'est-ce que vous, votre réaction?
Mais oui, moi, nous ne pouvons que les constater aussi parce que ça donne une note sombre à notre système éducatif, surtout au niveau secondaire. On aurait voulu que les choses soient beaucoup plus claires.
Alors, qui ont corrigé ces épreuves, parce que les correcteurs étaient en grève.
Voilà, bon, ça c'est une autre question qu'il faut se poser. Et moi je me dis, écoutez, à la fin on publie un tableau synoptique de résultats. Ça fait un mois, mais quand on a terminé, pourquoi on n'a pas... Parce que tous les résultats étaient déjà dans le serveur. Ils auraient dû publier ces tableaux synoptiques depuis un mois. Et il faudrait qu'on demande si on avait publié ces tableaux synoptiques un mois avant. Est-ce qu'on aurait les pourcentages de 78% sur l'ensemble de la République? C'est que d'une manière ou d'une autre, et même ces tableaux synoptiques qu'on publie aujourd'hui, c'est qu'au départ, il y avait quelque chose. Donc, nous, on se pose des questions. Et quelle est la valeur, finalement, de ces évaluations certificatives? Vous vous posez des questions. On reçoit parfois des élèves qui ne savent ni lire ni écrire. Et à la fin, ils ont de gros diplômes. Et qu'est-ce qu'ils vont faire avec ces diplômes? Et quand, pour des raisons, on ne sait pas fonder, électoraliste, politique ou quoi que ce soit, on accepte de repêcher certaines écoles sur base...
Mais qu'est-ce qui s'était passé exactement dans cette école Seboyokane, voilà, le lycée dont on parle ici?
Bon, je sais pas, moi je suis pas de là, il faut demander peut-être aux responsables, aux sœurs prophètes de cette école, mais c'est elle qui avait annoncé les temps de cette contestation, mais bon, je ne vais pas parler.
Elle avait introduit un recours.
Bien sûr, c'est passé dans les réseaux sociaux, tout le monde le sait, et même la réponse, c'est tout le monde le sait. Donc moi, je ne voudrais pas parler de la sorte, mais ici, nous déplorons cette manière de faire, vraiment, et si, et comme notre auditeur l'a dit ici, si on considère que l'éducation devient une matière politique où il doit être géré par les politiciens véreux, on est en train de tuer notre système éducatif et dans quelques années plus tard, le résultat de cette tuerie seront aux yeux de tout le monde et nous aurons un pays qui sera dirigé par des non-compétents qui ont des diplômes derrière la maison, qui n'ont rien autre chose. Nous aurions voulu que qui aide la technicité pour ces évaluations certificatives. Nous aurions voulu qu'il y ait la méritocratie. Chaque élève réussisse après avoir travaillé effectivement. Mais nous savons tout ce qui se passe. Il y a la triche, il y a cet repêchage, il y a l'étapatouillage des résultats. Bon, voilà.
Ça vient discréditer.
Tout à fait, ça discrédite. Ça discrédite nos épreuves. Et vous voyez sur l'échelle nationale, sur l'échelle internationale, qu'est-ce que les PTF disent? Qu'est-ce que les autres institutions éducatives disent? Et ici, bon, et comme le ridicule parfois ne tue pas le Congolais, bon, on s'est dit, bon, c'est publié, c'est fini, nous avons fait notre job. Mais ça discrédite les travails et des responsables et des enseignants qui sont sur terrain, qui s'époumonnent jour et nuit pour travailler avec les enfants, donner les matières et ils attendent que les meilleurs réussissent et que bon, on fasse autrement même. Voilà, on accepte de prendre... au fait, ça, ça relève un peu l'image de notre pays actuellement. Hein. C'est déplorable, quoi.
Bien, 099-706-9941, c'est le numéro par lequel vous pouvez nous appeler pour réagir, pour participer à cette émission de la vie au quotidien.
Retrouvez le Flash Info de Radio Okapi sur votre téléphone en composant le 42 502 puis le 313 pour ne rien rater de l'actualité du pays. Le Flash Info de Radio Okapi avec vous partout et comme vous voulez sur votre téléphone, accessible à partir de 10 appels gratuits par mois au 42 502, uniquement réservé aux abonnés, vous d'accord?
Bien, examen d'état 2023, qu'est-ce qui explique les changements des résultats? On va accueillir un auditeur, Bouchiri, qui nous appelle de Bukavu, dans le sud Kivu. Bonjour Bouchiri.
Ok, merci beaucoup monsieur de Radio Papi. Un petit correctif, je suis pas à Bukavu, là, je suis à Kolwezi.
Vous êtes plutôt à Kolwezi, merci, on vous écoute.
Ok, nous avons reçu ce message avec plein d'alarmes aux yeux. C'est déplorable vraiment dans notre pays, les autorités qui ne donnent pas vraiment l'importance au niveau intellectuel des peuples congolais. Je ne sais pas quel genre de jeunesse ils préparent. Ce qui se fait maintenant aujourd'hui dans notre pays, on n'y pensait pas et tout ça s'est craché sur le chef de l'État qui fournit des faux pour que les choses changent. Comment expliquer les examens d'État doivent avoir encore des recours? Nul pas. Nous, depuis que le pays, nous sommes déjà âgés, nous n'avons jamais entendu ces histoires comme ça. Pourquoi pas le ministre de l'enseignement primaire et secondaire ne peut pas écoper au moins une sanction et faire même la prison pour ça? Ça, c'est caché sur le chef de l'État. Monsieur le journaliste.
Quel
niveau depuis qu'on a commencé à proposer le système LMB, il continue toujours à réduire le niveau intellectuel des peuples congolais. Tout ça, c'est parce que le politique prime sur tout le pouvoir. Tout le pouvoir est sous l'emprise des politiques. C'est ce qui nous amène à tout ça. Comment expliquer quelqu'un qui présente des examens d'État, il échoue et après recours, il réussit encore? Ça, c'est des bêtises qu'on ne peut pas tolérer, nous, en tant que Congolais, et surtout nos dirigeants. Nous demandons au chef de l'État qu'il arrête ces ministres-là. C'est une façon de nous discréditer, c'est pourquoi nos diplômes ne sont pas pris en compte dans des pays même voisins de nous, même ailleurs, si vous partez avec votre diplôme de la République démocratique. Ça pose toujours un sérieux problème pour des inscriptions. C'est dans des histoires comme ça, monsieur le journaliste.
Bien, merci Bouchiri depuis.
Voilà ce que j'avais.
Bien, merci Monsieur Bouchiri merci depuis Kolwezi. Voilà, sa réaction, il dit qu'il faut carrément donner l'arrestation du ministre des tutelles.
Moi, je ne sais pas. Ça
c'est lui. Relève,
c'est lui, hein. C'est lui.
C'est sa proposition.
C'est sa proposition. Ça n'engage que lui, mais il y a encore mieux de faire mieux pour ça. On ne doit pas tuer l'éducation. Savez-vous, Mandela a dit que si vous voulez tuer un pays, il faut tuer son système éducatif. Et ce qu'on fait là, on est en train de tuer notre système éducatif. Et ce pays sera dirigé par qui? Qui seront dans l'administration publique? Qui seront dans des écoles? Dans les institutions républicaines? Ce seront quel genre de cadres? Parce que si un enfant...
Mais déjà, depuis les années antérieures, on déplorait déjà la baisse du niveau de l'enseignement. Et puis, chaque fois qu'on publie des résultats, il y avait des courtes vidéos sur les réseaux sociaux où les lauréats s'exprimaient. Mais c'est toujours catastrophique.
Tout à fait, c'est tout à fait catastrophique. Et je crois que nos autorités ne tirent pas de leçons. Quand bien même qu'on dit aujourd'hui qu'on s'époumonne pour améliorer notre système éducatif... Il y a par exemple la stratégie sectorielle de l'éducation et de la formation 2016-2025 qui a préconisé beaucoup de réformes. Mais ces réformes doivent être accompagnées sérieusement avec des moyens, un budget colossal, je voulais dire, puis accompagnées. Mais on ne tire pas de leçons. Hein, ça devient répétitif. Et tout ce que nous voyons lors des publications des examens d'État, quand on sent les jeunes gens s'exprimer... On se pose des questions. Mais pourquoi on ne peut pas tirer des leçons? les fautes de l'année passée, des années antérieures, pourquoi on ne peut pas changer? Pourquoi on ne peut pas améliorer? C'est ça la question. Pourquoi on ne peut pas améliorer? Est-ce qu'il manque des cadres qui peuvent vraiment taper les points sur table pour changer réellement notre système éducatif? Je crois que le chef de l'État actuel a dit qu'il fait de l'éducation un des piliers de son quinquennat. Et on a vu avec la gratuité de l'enseignement primaire qu'il a lancé, même si aujourd'hui il y a des effets induits, là, elle est ce qu'elle est. Mais on devait donner beaucoup de moyens à l'éducation pour que les systèmes soient un système solide, comme ce fut à l'époque. Malheureusement, on reste dans le tambour, mais dans le fait, dans les paroles, mais dans le fait, dans les concrets, rien ne change. L'enseignant est clochardisé aujourd'hui. Et vous voyez, quand l'enseignant est clochardisé, il touche à peine des sommes modiques. Il ne peut pas faire un travail de la hauteur. Quand même on crie à gauche, à droite, que aujourd'hui l'enseignement congolais... Non, mais c'est faux. C'est faux. C'est faux.
La grande question que les auditeurs se posent, les inspecteurs sont en grève. Je ne sais pas s'ils ont déjà repris les services. Entre-temps, qui ont corrigé les résultats et qui ont publié les résultats?
En venant ici, j'ai entendu que vous avez cité le nom d'un invité qui devait être ici.
Voilà, oui, monsieur Odia Musunga, l'inspecteur général.
Ouais, oui, il devait nous expliquer que pendant la période de la grève, pendant ce temps-là de la correction...
Comment ça se passe?
Oui, qui ont poursuivi le résultat? Est-ce que c'était le même inspecteur expert ou bien...
Bon, Tati était en contact avec lui. Bon, à la dernière minute, bon, il ne prend plus son téléphone. Peut-être que on ne sait pas ce qui s'est passé. On va accueillir un autre auditeur, Robert depuis Lubumbashi. Nous parlons du changement des résultats de l'examen d'État. Bonjour, Robert. Voilà, Robert n'est plus en ligne. On le relance tout à l'heure. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire, d'après vous, pour corriger ça, si cela vient discréditer le système éducatif? Comment réparer rapidement?
Bon, le mal est là. Il faut prendre des mesures, il faut prendre des décisions, il faut prendre des réformes. Ce qui est fait, est fait. Imaginez-vous, on ne pourrait pas revenir, ne pas remettre la roue en arrière pour dire que, bon, ces examens d'État sont annulés, c'est déjà publié, l'erreur est là. Mais il faut prendre le courage de reconnaître que nous sommes dans l'erreur et on doit progresser. Il y a une dynamicité dans les chefs de l'action étatique. Il faut des réformes, il faut une volonté politique forte pour changer les choses. À commencer par le sommet. Le sommet doit infuser cette énergie dans les ministères et spécialement dans les ministères de l'enseignement primaire, secondaire et technique, pour que plus jamais des choses comme ça se répètent. Et que si on voit des choses comme ça, il faut des mesures. Donc moi, je pense que les années à venir, il y a encore de l'espoir.
On peut corriger.
On peut corriger, on peut remettre les pendules à l'heure. Il suffit qu'il y ait cette volonté politique et cette conscience républicaine de faire mieux, parce que sans l'enseignement, ce pays sera foutu.
Bien, on va accueillir Robert de Lubumbashi. Bonjour, Robert.
Hello, bonjour.
On vous écoute, Robert. Qu'est-ce que vous avez à nous dire par rapport au changement des résultats de l'exitant?
Hello, c'est Gaylor depuis Lubumbashi.
Oui, Gaylor, on vous écoute.
Oui, c'est ce que notre invité est en train de dire, c'est plusieurs temps, mais sauf changement ici, ce qu'on vient de les consulter, ces résultats ici. Est-ce que c'est sûr et certain, même le reporter là des porte-parole des ministres qui est passé là-bas à la radio Capi dans des informations, il a dit non, c'est considérer les résultats des 18-9. Est-ce que c'est normal? Maintenant, ce qu'ils avaient programmé, notre ministre avait dit non. C'est ce qui est programmé, c'est ce qui est là. Maintenant, encore, ils doivent encore changer. Est-ce que même vous, c'est quel pays? C'est pas, ici, il n'y a même pas de bourse. Et les gens préfèrent aller étudier en Belgique, partout, par-ci, par-là, au Canada. Ici, il y a tout. C'est déjà piraté. Mais vous voulez à ce que suivre seulement, non? On doit être correct vis-à-vis de ça. Est-ce quel droit que vous allez faire? L'enfant a déjà échoué, et puis, vous venez et puis vous dites que non, il avait réussi, on avait ouvert la fenêtre 2022. ça s'est passé. C'est qu'est-ce qui se passe? Essayez-moi aussi, j'allais vous dire.
Merci, Guélan, d'avoir appelé depuis la ville de Lubumbashi. Qu'est-ce que vous pouvez lui dire? Il semble qu'il y a eu un problème des fenêtres, tout ça, consultation des résultats auprès des entreprises des cellulaires. Donc c'était, les gens ont consulté la mauvaise fenêtre, ils ont eu de mauvais résultats, et puis voilà, on confirme les bons résultats.
Mais c'est ça, c'est que j'étais en train de vous dire, la question d'algorithme 2022-2023. Mais comment est-ce que l'algorithme ou la fenêtre de 2022 devait être toujours ouverte, alors que on avait fini cette édition, on avait publié les résultats officiels, les tableaux synoptiques a été publié. Donc on suppose que cette fenêtre était hermétiquement fermée. Mais comment expliquer? Comment ils peuvent nous expliquer que non, il y a eu cette erreur? C'est inconcevable. C'est un faux fuyant à notre avis. Nous ne sommes pas prêts à avaler cette pilule. Ils doivent faire bien les choses. Quand les politiques véreux entrent dans un système, ils phagocytent les systèmes. Vous avez ça, donc c'est... On se pose la question. Je voyais une blague passer un matin, une élève qui avait échoué lorsqu'on a publié au début. Et puis bon, et ses parents avaient décidé qu'écoutez, bon, tu dois rentrer à l'école. Elle est rentrée à midi, les matins. À midi, elle est revenue et à 16h, on a publié ses résultats et son nom était réapparu.
Elle a réussi.
Oh. Bon, c'est une blague, hein, que moi je vis. je me disais. Vous voyez un peu, un parent sérieux, qu'est-ce qui s'est dit? Est-ce que je suis en train de rêver ou bien je suis en train de
Ma
voir...
fille avait échoué.
Oui,
et après,
après.
Elle a réussi. Qu'est-ce qui s'est passé?
C'est de quel bâton magique qu'on a fait ça? Non. Je crois que les évaluations certificatives restent les grâles de notre système éducatif au niveau secondaire. Et on ne doit pas prendre ça à la légère, parce que c'est une clé. C'est une clé qui vous ouvre dans l'univers pour les études supérieures ou universitaires. Et que si vous avez déjà perdu cette étape, je me demande à l'université ou aux instituts supérieurs, qu'est-ce que vous allez faire exactement? Qu'est-ce que vous allez faire? Parce que vous sortez d'un cursus de 4 ans, de 6 ans, où vous n'avez pas maîtrisé toutes les matières, vous avez eu des lacunes dans l'écriture, et au finish, bon, vous êtes repêché avec un diplôme bombardé avec une mention, une note très élevée.
60%, 70%.
Bon, on se dit... Où elle est sérieuse? Comment ça va être finalement quoi? Et les enseignants se plaignent, je vous dis, au niveau, faites l'étude, allez aux universités, demandez aux enseignants qui reçoivent les étudiants de la première candidature ou bien de la troisième candidature, demandez leurs notes, demandez leur travail de fin de cycle pour voir comment est-ce que c'est du charabia, on écrit même en arabe français.
Mais certains proposent qu'on annule carrément les résultats de ces examens.
Annuler les résultats des examens de cette édition.
Oui, de cette édition, parce que là, il y a déjà un problème.
Bon, c'est un sérieux problème, il faut réfléchir. Je crois que le ministre doit mettre tout autour de sa table tous les techniciens, et en l'occurrence surtout l'inspectorat général censé... organiser et certifier tout ce qui a d'évaluation certificative et voir dans quelle mesure possible ils peuvent changer la donne. Moi, je crois que aujourd'hui annuler le résultat, ce sera encore un grand bémol sur les et on refuse. Ils savent que s'ils annulent, ça sera sur le plan social, il y aura des surchauffes, des conséquences. Oui, il y aura la surchauffe, et surtout qu'ils veulent, vous comprenez, avec les élections, et il faut éviter la surchauffe.
Il faut éviter tout cela.
Oui, il faut éviter tout cela.
Gédéon nous appelle depuis Kolwezi. Bonjour.
Bonjour, monsieur Dédonin.
C'est monsieur Jody. Qu'est-ce que vous avez à nous dire, Gédéon?
Ok, monsieur Jody, en tout cas, je salue notre invité.
Quelle est votre
question? Je vous salue aussi.
Bonjour.
Merci de vous éloigner de votre radio. Vous allez suivre à partir du téléphone. Veuillez réduire le volume de votre poste récepteur ou éloignez-vous de votre radio carrément, Gédéon.
Moi, j'ai une question, monsieur Jody, qui me préoccupe.
Laquelle? Merci de vous éloigner de votre radio.
Ok, c'est vite fait.
D'accord, allez-y. Allez-y rapidement, merci de vous éloigner de votre radio encore une fois, Gédéon. On vous écoute.
Comment expliquer que dans un grand pays comme la RDC, monsieur Jody, on nous fait que humilier chaque fois, publier les résultats après un mois, commencer à répéter, monsieur Jody, c'est une réalité pour notre pays.
D'accord, merci beaucoup, monsieur Tati.
Mais c'est ce qui est devant nous. C'est ce qu'on est en train de constater. Et c'est une humiliation totale de notre secteur. Mais on ne va pas mourir, on ne va pas pourrir. Il faut accepter cette humiliation parce que c'est ce qui est, c'est ce qu'on nous donne comme résultat. C'est le feedback que nous avons. Et pourtant, dès le départ, nous avons cessé de les dire, il faut bien faire les choses, il faut bien faire les choses. On a accusé les anciens ministres prédécesseurs que non, ils étaient au four et au moulin, ils faisaient ça, ils faisaient ça. C'était bien beau d'accuser les autres. Donc on a dit penser que ça sera cette fois, on va nous donner vraiment la pure, donc disons un changement intégral des choses. Mais on constate qu'on retourne, peut-être qu'on dégringole encore plus. Il faut qu'on arrête ça, il faut qu'on arrête cette dégringolade, il faut remonter. Et quand on a touché les Rubicons, il faut vraiment remonter parce que sinon le pays est en train de mourir tous les jours pour autant que on n'avance pas. Les étudiants, les enseignants, je l'ai dit, se sont clochardisés. Quand vous allez dans des écoles, la gratuité peine à se faire, quand bien même qu'on peut dire que plus de 4 millions d'enfants sont revenus à l'école, mais aller dans les écoles pour voir dans quelle situation ces enfants sont. Il y a des classes pléthoriques de plus de 100 élèves. Il y a les enseignants qui sont vétustes, qui ont vieilli, qu'on envoie à la retraite de manière cavalière. Et tous ces éléments-là, quand vous voyez, on va de bémol à bémol et ça ne donne pas une bonne image de notre système éducatif. Donc, le remarque que nous avons de l'extérieur dire que notre système éducatif est au rabais et se confirme avec des pratiques pareilles. Il faut arrêter ça. Il faut arrêter l'hémorragie, dire que il faut faire autrement les choses.
Bien, Jean Bosco Pouna, vous êtes en ligne. Alors, avec tout ce qui s'est passé, qu'est-ce qui doit être fait rapidement pour corriger ce genre de situation?
Bon, qu'est-ce qu'on va devoir corriger? Je crois que le plus grand péché de l'actuel ministre, c'est d'avoir excellé dans le non-respect des normes et principes. Vous savez, lorsque vous déplacez toutes les bornes, eh bien, voilà ce qui nous arrive. Parce que, au niveau du système éducatif, lorsque vous respectez les normes, eh bien, le système va mieux. Mais lorsqu'on les brade, comme aujourd'hui, là, ça ne va pas. La première question, c'est qu'il faut absolument que l'on comprenne que l'inspection générale de l'enseignement a trois missions. Elle a la mission de former, de contrôler, mais aussi d'évaluer. On ne peut pas remplacer par les cabinets politiques cette institution. Je crois que là, c'est faire fausse route. L'autre principe qu'on doit absolument respecter, c'est la collaboration. Vous savez que le domaine de l'enseignement, c'est le domaine de collaboration. Le ministre a des collaborateurs immédiats et il faut absolument les respecter. Quand vous dites, par exemple, à un inspecteur général adjoint, vous instaurez, et même au Proved, ils doivent commencer à faire des itinérances sur le terrain. C'est-à-dire, chaque mercredi, ils doivent aller dans les écoles. Au moment où les itinérances sont là, mais je crois que là, il y a eu quand même un excès de pouvoir. Et aujourd'hui, les gens n'ont plus le cœur à l'ouvrage. Un inspecteur, il est IGA, Les mercredi, ils se baladent dans les écoles au moment où les itinéraires sont là. Je crois que ça, ce n'est pas les respecter. Mais il y a également la norme qu'on a bradée et qui amène aujourd'hui qu'on désactive les enseignants. Hein, les enseignants sont maintenant dans une insécurité permanente. Ils ne savent pas à quel moment on va les désactiver. Il va perdre son salaire. Je crois que ces choses-là doivent cesser. Et aussi, il y a la question relative à la retraite. Cette retraite cavalière qui n'a pas suivi les normes requises fait très mal aux enseignants. C'est-à-dire même ceux qui sont en train de travailler, mais ils sont sur les qui-vivent parce qu'ils ne savent pas ce qui va leur arriver demain. Lorsqu'on voit leurs collègues être retraités de cette manière, il y en a jusqu'aujourd'hui qui n'ont jamais rien touché du forfait qui avait été donné, je crois que c'est mal faire les choses et le ministre n'a pas véritablement géré le système en bon père de famille. Je crois que on doit changer toutes ces questions-là, en tout cas.
Bien, les gens se posent la question de savoir les inspecteurs, les personnes censées corriger les examens sont en grève, alors qui ont corrigé et publié?
Mais la question a été posée au ministre de l'EPST, parce que même le serveur, même la délibération, le serveur, les données sont gérées au niveau du cabinet, ça c'est la première fois qu'on voit ces choses. L'inspecteur général de l'enseignement, bon, il ne peut pas perdre son fauteuil. Nous sommes syndicats, nous avons notre liberté au regard de la Constitution, au regard des textes. Mais l'inspecteur général de l'enseignement aujourd'hui, je crois que il est vraiment malheureux. Parce que qui a corrigé l'examen d'État cette année? Qui? Parce que le centre était fermé officiellement. On ne l'avait pas réouvert officiellement. Toutes les différentes phases, que ce soit la composition, vous prenez la correction, vous prenez la phase de la publication des résultats. J'ai dit composition, cette phase-là a été entachée d'irrégularités. Vous prenez la phase de la correction, ça a été entaché de beaucoup d'irrégularités. Et vous allez même à la publication, il y a une phase-là que je suis en train de laisser tomber, je vais me rappeler. Vous prenez la phase de la publication. Eh bien, là également, toutes ces différentes phases-là de l'examen d'État ont été entachées de beaucoup d'irrégularités. Simplement parce que les ministres ont voulu inventer la roue. On n'invente pas la roue dans les domaines techniques. Et je crois que la deuxième session qui a été observée, les enfants eux-mêmes disent, nous avons été repêchés, c'est la deuxième session. Même les enfants ne croient pas aux résultats qu'ils ont aujourd'hui. Je crois que c'est vraiment dommage que le cabinet politique, et là c'est le gouvernement qui jette un discrédit sur une évaluation prestigieuse. Le gouvernement, pourquoi? Parce que les inspecteurs ont fait près de 4 ans sans avoir touché leur prime. Comment on peut continuer à travailler dans ces conditions-là? Et lorsqu'ils vont en grève, le cabinet politique force la note en récupérant, en recrutant de nouvelles personnes qui ne savent pas faire ce travail-là. Donc je crois que ce sont des choses qui doivent changer, mais c'est au niveau vraiment du gouvernement. Bon, heureusement que ce sont les élections, sûrement que le ministre ne va plus revenir, il va aller s'occuper du Parlement, et on va mettre véritablement des techniciens pour gérer l'éducation, parce que sinon, ça nous met nous tous vraiment mal à l'aise. Figurez-vous que vous avez des élèves dans chaque maison, et que les parents qui avaient déjà inscrit les enfants pour reprendre la sixième année, qu'on vienne leur dire un mois après que non, ces enfants ont réussi et personne ne vous croit. Personne en tout cas.
Voilà, par exemple, là j'ai les résultats du Haut-Katanga en mécanique, un élève qui a eu 49,7% et après délibération, bon, il est passé. Alors tout ça, c'est le miracle.
Absolument, c'est un miracle.
C'est un véritable miracle. Regardez. On ne tolère pas, même en classe, nous faisons le travail en classe, on ne tolère pas que l'enseignant puisse falsifier les points. On ne tolère pas qu'il y ait un doute. Vous avez donné un devoir, combien vous avez coté, vous avez donné les interrogations, c'est combien. On récupère même les papiers parce que les parents peuvent passer à l'école, vérifier comment les enfants ont travaillé. Donc déjà au niveau de l'école, eh bien l'évaluation doit se faire avec beaucoup de sérieux. et a fortiori lorsque vous prenez une évaluation certificative. La légèreté avec laquelle on a conduit cet examen, je crois que ce sont des choses qu'on ne peut plus répéter demain. Parce que les élèves ne vont pas vraiment étudier, ils vont se dire, bon, maintenant là, quand vous étudiez, le diplôme, il peut venir ou il ne peut pas venir, et puis, bon, on ne sait pas comment on le
fait. Et puis, il peut y avoir la première session et la deuxième session.
Mais oui.
Ça, c'est réservé à l'université. N'oubliez pas que le professeur Tony Mwaba, il est professeur à l'université, peut-être il a encore cette nostalgie-là. C'est vraiment dommage. C'est dommage parce qu'on n'a pas su bien entretenir les dialogues avec tout le monde, et bon, voilà. Voilà.
Monsieur Jacques.
Mais bon, et nous sommes restés à notre soif pour ces examens d'État, et cette manière de faire, comme l'autre a dit, on a caporalisé tout le monde, hein. Et quand on a caporalisé tout le monde, le ministre a caporalisé la cellule technique, c'est-à-dire l'inspection générale censée faire procéder à ces évaluations. Et vous comprenez que derrière cette caporalisation, c'est sali chef. Donc, on n'a pas à jouer.
Monsieur Jean Bosco a dit que c'est le cabinet qui s'est occupé de tout ça.
Je pense que lui a beaucoup plus d'informations que moi. Mais j'ai dit que lorsque tout est entre les mains des politiques véreux, comme je l'ai dit, ça devient très difficile de contrôler les systèmes. Et cette manière de caporaliser, comme j'ai dit, les gens ont peur de perdre leur poste. Alors, ce sont des coups bas qui se posent. Bon, publiez ces éléments.
Parce que là-bas, il semble qu'il y a le système de, on vous désactive, hein. Si vous n'êtes
tout
pas,
à fait,
vous ne marchez pas
fait,
comme on vous le demande.
Fait, on désactive.
On vous désactive, vous n'avez plus votre salaire.
Vous voyez, quand on vous arrache votre salaire, quelle est la motivation que vous aurez pour continuer? Et ce système de désactivation, c'est toute une première fois qu'on les constate. On ne sait même pas si ils maîtrisent exactement. Est-ce qu'ils ont le cœur dans l'ouvrage lorsqu'ils ils font toutes ces désactivations? On se pose des questions. Je crois que l'enseignement n'est pas un secteur à prendre à la légèreté ou à prendre avec ses mains en poche. Il faut réfléchir par des fois. C'est l'enseignement qui fait un pays. C'est derrière l'enseignement qu'on forme les futurs cadres dès la base. Mais quand tout est ballotté, on fait un saut d'humeur et on fait à sa manière, je crois que on se perd. Il faut être spécialiste de ces domaines pour savoir ce que valent les évaluations certificatives et surtout la fin du cycle. Ce n'est pas n'importe quoi. C'est la clé, comme je l'ai dit au début ici. C'est la clé d'un avenir pour qui que ce soit. Mais quand on a déjà négligé ça, quand on ne prend pas ça au sérieux, on se pose la question, et dans 10 ans, dans 15 ans, qu'est-ce que ce pays va devenir? Qui seront les cadres qui vont, est-ce que ça sera leurs enfants qui étudient à Harvard ou bien à Yale ou à Oxford qui vont revenir ici pour diriger ces pays, occuper les postes?
Merci. Merci Jacques Tati, coordinateur national de la Fédération nationale des enseignants et éducateurs sociaux du Congo. Nous disons également merci à Jean Bosco, Pouna, rapporteur de la synergie des organisations syndicales et sociales de la RDC. Excellente journée.
Merci beaucoup.
À la prochaine.
Merci.